C'est toujours précieux d'avoir l'occasion de partager son expérience réglementaire en tant qu'autorité de régulation et d'écouter aussi ce qui se passe un peu partout en Europe, voire dans le monde avec nos amis de la marque. Et c'est d'autant plus intéressant que ça se passe dans le cadre d'une conférence intensive et très ciblée, comme c'est le cas ici. Je voudrais dire quelques mots de notre expérience en matière de régulation, quelques mots à propos d'abord de la situation en Irlande, sur les médias communautaires, je dirais quelques mots de la télévision aussi, bien que le développement dans ce domaine soit embryonnaire, vous pourrez constater que si la radio communautaire est bien installée, la télévision communautaire va probablement se développer un peu de la même manière. Je voudrais aussi dire quelques mots à propos du cadre réglementaire actuel et de son évolution, parce que d'une certaine manière, la radio communautaire était en place sur le terrain avant que son statut soit adopté. On a un peu mis la charrue avant les bœufs. Ça vous intéressera peut-être d'avoir un éclairage là-dessus. Je dirais ensuite quelques mots de notre politique de régulation et de notre stratégie. En quelques mots, en ce qui concerne le PAF irlandais, dans le domaine des services de radiodiffusion, nous comptons une vingtaine de radios communautaires, associatives, 6 radios locales, donc de collectivités. Et assez régulièrement, une dizaine de services de radiodiffusion communautaire qui sont ouverts à court terme, entre une trentaine et une centaine de jours. Ce sont en général des expériences de radiodiffusion dont certaines se pérennisent, qui contribuent à faire augmenter le nombre de radio communautaire. Et puis il y a 3 chaînes de télévision communautaire. Les radios communautaires représentent environ un tiers des diffuseurs. 20, ça n'est pas beaucoup, mais l'Irlande est un petit pays, c'est une île aussi, et donc le nombre de diffuseurs est limité. Certaines de ces radios sont confessionnelles, d'autres sont linguistiques, visent à diffuser en gaélique. Il y a aussi des radios universitaires, un peu comme dans d'autres pays. Le moteur de l'autorité de régulation de la radiodiffusion en Irlande, pour ce qui concerne les radios communautaires, est issu de notre objectif statutaire numéro 1, qui est de veiller à la diversité et la pluralité dans les services de radiodiffusion accessibles au public irlandais. La loi actuelle remonte à 2009. Le terme communautaire, au sens de radio communautaire, existe depuis environ 2001. Mais il est, comme je l'ai dit, le résultat d'un développement sur le terrain. Il ressort très clairement du texte statutaire qu'on ne définit pas ce qu'est précisément une radio communautaire, une radio associative. C'est à chaque radio communautaire, en d'autres termes, de se définir. Pour ce qui nous concerne, c'est la structure de l'actionnariat ou de la propriété, l'organisation de la grille des programmes et le financement de ces radios communautaires qui nous importent. La propriété doit être issue de la communauté de diffusion et être responsable devant elle. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui s'associent pour ouvrir une radio communautaire, mais nous souhaitons que la représentation soit la plus inclusive et donc la propriété la plus inclusive possible. Le contenu doit aborder les intérêts de la communauté et lui apporter des avantages sociaux. C'est une exigence fondamentale pour toute société, pour toute radio communautaire qui demande une licence, démontrer comment elle va servir la population. Et en termes de financement, le statut prévoit que les revenus ne peuvent servir qu'à rembourser les dépenses. Donc c'est vraiment des radios communautaires qui doivent fonctionner sous statut d'ASBL. Elles peuvent diffuser de la publicité dans des limites très restreintes. Il ne s'agit encore une fois pas de réaliser des bénéfices, mais bien de financer l'activité. Tout bénéfice réalisé doit être investi dans la radio elle-même.
Quelques commentaires maintenant concernant le type de service fourni par les radios associatives et la différence avec des radios commerciales. Eh bien, la BAI, donc l'autorité de réglementation, prévoit des dispositions qui permettent à la communauté locale de donner un avis sur le type d'autorisation à donner. Et ça, c'est tout à fait particulier, spécifique. Et d'autre part, ça permet en fait une approche du bas vers le haut. Dans la pratique, on n'est pas dans nos bureaux en disant « voilà, on va avoir un service radio communautaire ici et là ». Non, en fait, ça fonctionne vraiment au niveau local. Donc, il y a des groupes qui se réunissent, qui expriment un intérêt à la création d'un service et donc qui collaborent avec nous et en fait, est-ce qu'on pourrait dire que certains ont déjà demandé une autorisation, une licence? Non, ce n'est pas comme ça que ça passe. On sait où émergent les groupes. Alors, soit ils ont accès au réseau de soutien des radios associatives. Donc, en général, on sait, on sent assez bien d'où vont venir ces licences, ces autorisations. Alors, autre caractéristique réglementaire, c'est qu'on peut procéder à une évaluation des besoins en diffusion d'une communauté de manière à servir cette communauté. Donc, ça nous permet de mieux connaître, de mieux savoir ce que veut la communauté et nous assurer que le service fourni répond aux besoins de la communauté en question. Pour ce qui est de la télévision associative, la BAI mène également des enquêtes, fait des questionnaires concernant la participation de la communauté dans les programmes de télévision et la qualité et la pertinence du contenu. Alors ça, c'est particulier pour la télé. Donc on doit prendre ces résultats en considération pour déterminer si oui ou non on donne une autorisation de diffuser. Il y a d'autres dispositions spécifiques à la radio communautaire. C'est qu'il faut qu'il y ait un accord de portage pour les services MMD, par exemple. Donc, des accords de portage pour les services télévision et câblés et les systèmes MMD. Donc, ça permet effectivement un spectre assez large. Alors, quelques mots maintenant concernant l'histoire de la disposition réglementaire telle qu'elle existe en Irlande. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu, on a mis la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. Il y avait un prédécesseur à la Broadcasting Authority of Ireland, qui était la commission radio-télévision, qui existait donc avec l'autorité de réglementation irlandaise, qui avait une catégorie particulière pour les diffuseurs communautaires depuis 2001. En fait, au départ, il y avait un groupe de lobbying très fort pour la création de services communautaires en Irlande. Alors, comment est-ce que se sont établis les services radio? En fait, dans le contexte irlandais, l'encouragement à créer des radios associative, c'est parce que c'était surtout considéré comme un outil de communication plus que comme un outil radiophonique. C'était vraiment un outil pour le développement d'activités pour la communauté locale. Avec des origines peut-être plus dans des zones rurales, dans des zones économiques plus désavantagées. Donc, il y a beaucoup d'organisations associatives qui sont développées dans ce contexte-là, et les radios émanent de ce contexte. En tout cas, ça, c'est vraiment le contexte irlandais. La première commission de la BAI est un petit peu embêtée avec cette idée d'une radio associative. Puis la deuxième commission, aux alentours de 1993, a adopté une approche beaucoup plus ouverte et a été convaincue de pouvoir autoriser des radios, donc de définir une politique pour les radios associatives qui sous-tend encore vraiment les activités des radios associatives d'aujourd'hui. Donc, en 1985, ça a été la première autorisation de service, puis ça s'est bien développé depuis lors. Un élément clé, enfin, je vais parler de quelques éléments de la politique en question, mais un des éléments clés, c'est qu'à l'époque, pour vraiment faire une partie qui soit différente de service public ou de service commercial, parce qu'il y avait des chevauchements, des doublons en ce qui concerne des contenus et d'autres types de services, mais une des caractéristiques tout à fait particulières et qui sous-tend vraiment la diffusion de radio associative concerne l'adoption de la charte de la marque, donc de l'Association mondiale des associations de radio communautaires. Et ça a vraiment permis de définir à ce moment-là ce qu'était clairement une radio associative. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de cette histoire, de l'histoire, je reviens sur l'histoire, c'est parce que je crois que les régulateurs ne devraient pas perdre de vue que, alors que la diffusion associative n'était pas définie par des statuts, mais en termes de politique, c'est tout à fait ouvert à un régulateur. Il est tout à fait possible de prendre ce genre d'initiative. Et si c'est quelque chose dont la valeur a été identifiée, si ça va dans le sens de la diversité et la pluralité, c'est tout à fait ouvert. Les autorités sont tout à fait ouvertes à cela. Et il y a beaucoup de concordance entre notre statut et la politique. Et ça a bien passé l'épreuve du temps, d'ailleurs. On n'a pas vraiment défini la radio associative. C'est plutôt, en fait, un ajout aux médias services publics ou une radio commerciale. On n'a pas vraiment défini autrement que comme cela. C'est quelque chose qui vient en plus. Et tout service, dans ce sens, doit adopter l'éthique de développement de la communauté, de développement communautaire. Pour ce qui est du contrôle, il faut que les services associatifs communautaires soit en fait à la base de la gestion et des opérations et que ça réponde bien sûr à une certaine éthique. Alors pour ce qui est des financements, ça c'est toujours une partie intéressante évidemment. Nous avons essayé de limiter le champ des activités commerciales qui correspond à un maximum de 50% de revenus provenant d'une activité commerciale. Mais dans la réalité, déjà anticipé, c'était dit que ça allait être un problème, mais en fait, dans la pratique, ça ne s'est pas avéré être un problème majeur en tout cas. Donc, nous avons également fixé un seuil de 6 minutes de publicité par heure d'antenne, et l'activité commerciale doit être en rapport avec la zone géographique, avec la communauté desservie. On a parlé donc de postes vacants, d'opportunités d'emploi, des entreprises qui opèrent dans la zone géographique desservie par la radio associative. Pour ce qui est des stations de Radio Campus, celle, en plus du montant payé par étudiant par année, il y a juste là un petit montant qui permet de financer ce service Radio Campus et ça fonctionne assez bien. En termes de ressources pour soutenir ce service, c'est à la fois du personnel volontaire et non volontaire. La BAI s'attend à pas mal d'activités bénévoles dans les services radio. Permet également enfin, la formation est tout à fait nécessaire pour les bénévoles, formation à l'éthique de la radio associative. Et c'est quelque chose qu'on regarde de près avant de donner une autorisation durable. À d'un point de vue ressources, et ceci est tout à fait le cas chez nous, on s'attend à ce qu'un soutien financier vienne également d'organisations communautaires, d'agences de développement local. Ça, c'est quelque chose qui peut poser problème de temps en temps, mais de manière générale, ce modèle de financement fonctionne bien. Donc, il y a un canal de financement, et puis si ça bloque un petit peu, il est souvent, enfin, on préoccupe, on s'inquiète, et souvent, c'est remplacé par un autre canal de financement. Donc, en général, ça n'a pas posé vraiment problème. Alors, du point de vue de la programmation, la politique de la BAI, c'est que le programme doit refléter les besoins spécifiques et les intérêts des publics auxquels la radio s'adresse. Et donc, il faut faciliter l'accès aux membres de la communauté, répondre aux intérêts de la communauté. Donc, on peut s'attendre à certaines caractéristiques uniques. Alors, comme je dis, il peut y avoir des redoublons, des chevauchements, de contenus avec des services commerciaux, services publics. Mais on s'attend malgré tout à des spécificités uniques. Notamment, donc, le fait qu'il y ait des programmes qui soient élaborés par la communauté locale et qui s'adressent à la communauté locale. Quelques mots concernant notre stratégie en matière de services communautaires. En fait, il y a trois parties principales. Tout d'abord, l'autorisation. Nous avons une activité d'autorisation sur base de réponse. Donc, ça dépend un peu de la demande et on y répond. Donc, c'est vraiment, on réagit à ce qui est demandé. On répond aux besoins de la communauté. Alors, de notre point de vue, d'autorité de réglementation, ceci répond tout à fait à nos objectifs de diversité et de pluralité. Alors, nous avons des processus de demande tout à fait ouverts. Ce qui facilite la nature organique du développement des services communautaires. Et nous utilisons des licences radio à 30 jours ou à 100 jours. Enfin, alors, il y a, avant, vous savez, tout un système de négociation, de contrats, etc. Bien souvent, les stations de radio n'étaient pas forcément complètement prêtes ou suffisamment développées pour fournir ce service. Donc, on encourage vraiment les demandeurs à d'abord tester et à constituer des capacités en passant par ces autorisations à 30 jours ou à 100 jours avant. Donc, c'est des autorisations temporaires qui sont disponibles uniquement pour les services communautaires. Alors, l'autorisation de 30 jours, ça c'est ouvert à n'importe quel type de service, mais les autorisations, les licences à 100 jours sont disponibles pour les services communautaires. Et par exemple, ça permet qu'une station opère le week-end, par exemple, tout au long de l'année. Ça leur donne l'idée de ce que ça implique, des ressources nécessaires. Et comme je l'ai dit, ce qui est vraiment critique, c'est que c'est vraiment autour du renforcement de capacité. Alors, d'un point de vue de licence, les services associatifs communautaires opèrent selon les mêmes conditions, en fait, que les radios commerciales. Ils doivent adhérer aux mêmes règles, mais en termes de contrôle et de réglementation, il y a des choses essentielles qui seront différentes. Par exemple, mesurer la taille des auditeurs. Ça peut être important au niveau commercial, mais pas forcément dans un contexte de radio associative. Alors, par contre, on va mettre l'accent sur le contrôle. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu un véritable accès? Est-ce qu'il y a eu une véritable diversité des contenus? Ça, c'est le genre de choses auxquelles on va attacher beaucoup d'importance d'un point de vue d'autorité, de réglementation. Voir également ce qu'il en est des conditions financières, si elles sont bien respectées, etc. Il y a deux autres éléments principaux de la stratégie pour les services de radio associative concernant le financement et la formation. Nous avons un programme qui s'intitule Sound and Vision en Irlande, qui est ouvert à tous les acteurs, services publics, services commerciaux, la communauté, mais le secteur associatif s'en est sorti pas mal en termes d'accès à la fois du côté radio et télévision. En 2012, ils ont eu accès à 1 500 000 d'euros pour leur programme. Et une grande partie de ce montant, nous n'avons que 3 services de télévision, donc un demi-million vient de la télévision et les radios responsables de l'autre million. Donc ça permet de pas mal travailler sur le contenu du point de vue des radios. Pour ce qui est de la formation, Bernard y a fait allusion auparavant. Nous avons ce qu'on appelle un support multiannuel structuré. Et une des caractéristiques de ce support, c'est de pouvoir soutenir les réseaux de stations de radio associatives. Et ça, c'est tout à fait stratégique. En les soutenant, les aidant à trouver des financements, nous apportons forcément nous-mêmes un soutien aussi. Ça permet de toutes nouvelles stations de se développer. L'aspect le plus critique, c'est qu'il faut s'assurer que ces nouvelles stations appliquent vraiment l'éthique et donnent vraiment du sens au type d'éthique requis. C'est un réseau très, très robuste, bien établi. Et ça fait que même un petit montant, un petit soutien, mais annuel, est important. Et ça permet effectivement la formation pour le personnel. Et en guise de conclusion, et j'espère que je n'aurai pas parlé trop longtemps, quelques défis pour l'avenir que vous connaissez sans doute. Le financement des services de radio associative. En Irlande, on peut dire que de manière générale, personne n'échoue à cause d'un manque de financement. Alors, la gouvernance ici qui apparaît en troisième point, mais on doit dire que dans la réalité, beaucoup de ces services ont eu des problèmes de gouvernance. C'est plutôt là que ça se situe s'il y a eu fermeture de radio associative. C'est les opérations, c'est le fonctionnement du service qui n'était pas bon, qui n'était pas adapté, qui n'avait pas été bien conçu. Et donc, il n'était pas assez robuste pour pouvoir faire face aux différents processus prévus. Nous avons élaboré un code de bonne pratique pour les services de radio communautaire et on essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus, de travailler là-dessus aussi. Mais donc, c'est plus souvent un problème que le financement. Alors, le rythme de développement de télévision associative est lent, pas uniquement à cause des questions de spectre, de diffusion, mais également à cause de financement et du niveau de financement requis pour cela. Avec notre programme Sound & Vision, nous essayons de donner certaines assistances, mais c'est limité. Et il y a un rythme de développement assez lent. Et puis finalement, ce qui concerne l'accès aux plateformes, parfois, c'est un problème, mais ça n'a jamais été un problème majeur. Le DAB, la diffusion numérique... peut-être assez lente dans le contexte général, mais nous sommes encore très axés FM, même s'ils opèrent tous en ligne, et la télé, c'est là effectivement il y a accès à un système câblé, MMD, de 40 à 60%. La diffusion numérique et terrestrielle s'avère très très chère pour les TV associatives, mais ça semble bien fonctionner par rapport au câble. Mais bon, nous y accordons malgré tout beaucoup d'attention. Mais comme je l'ai dit, Ce qui est très très important, c'est l'engagement. L'engagement à la diversité, du contenu, à la pluralité, au pluralisme, à la fois en ce qui concerne le contenu, l'élaboration du contenu. Et effectivement, il y va également de l'engagement des autorités de réglementation vis-à-vis des radios associatives.